L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Frédéric Bonnard qui est le directeur du numérique, directeur digital de France Télévisions et de toutes les chaînes qui sont dans le groupe France Télévisions. Avec Fred, on s'est connu il y a quelques années via Kenza, si je ne me trompe pas.
Correct.
Qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus de comprendre l'avenir d'un média qui aujourd'hui est extrêmement chahuté, tant par le numérique que par des nouveaux acteurs type Netflix. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi l'avenir de la télévision, ou d'un, pas de la télévision, pardon, d'une chaîne télévisée ou de plusieurs chaînes télévisées dans un monde digitalisé ou numérisé?
Écoute, c'est une très bonne question.
Tout le monde se la pose. Justement.
Tout le monde se la pose, voilà. Il n'y a pas un seul média dans le monde qui ne se pose pas cette question. Il y a eu d'abord les médias print qui se sont posés la question. Ouais. Après, il y a eu les radios. Et aujourd'hui, c'est autour des médias télévisuels de se poser cette question. Donc voilà, à travers le monde, tout le monde se pose la question. La réponse courte qu'on peut donner, c'est de se dire... Aujourd'hui et dans le passé, finalement, le média n'avait qu'un seul support, le média télévisuel, qui était la télé. Donc je produis du contenu pour une antenne qui s'appelle la télé. Mmh. Et ça n'a pas changé pendant des dizaines et dizaines d'années. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire j'ai des antennes. C'est-à-dire qu'il va falloir faire vivre une marque télévisuelle. Si je prends par exemple chez nous France 2, comment je fais vivre France 2 non plus simplement sur une télé telle qu'on l'entend, mais sur un écosystème numérique qui va... de Facebook, en passant par Messenger, en allant sur YouTube, ensuite sur nos applications, sur nos sites web,
Snapchat.
Et aussi Snapchat, mmh. Effectivement, Instagram, et aussi sur la télé. Voilà. Donc la télé telle qu'on la connaît devient un parmi différents canaux de distribution du contenu. Ce qui est clé après, c'est de se dire la grammaire narrative qu'on a utilisée pour un certain type de médias, ouais. La façon de délivrer, le contenu doit changer. C'est-à-dire quand j'écris du contenu, on va dire télé, hein, venant de la télé pour Snapchat, c'est pas la même grammaire, c'est pas la même façon de raconter une histoire que pour un site web ou une application.
Ça peut pas être le même. D'ailleurs, je trouve que les anciens de Canal qui ont créé Brut le prouvent bien. Je trouve que c'est intéressant de voir la manière dont le système narratif qu'ils ont pris pour le digital. Qui est déjà avec des gros titres, parce que les gens n'écoutent pas forcément le son sur les médias, sur le digital de manière générale, mais plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. Et c'est un système narratif narratif hyper court. Donc c'est à ça que tu fais référence, c'est que c'est pas forcément les mêmes temps d'attention, c'est pas...
Voilà, exactement. C'est-à-dire que si on peut prendre Brut, c'est un bon exemple. Alors il s'avère que France Télévisions a un partenariat avec Brut.
Ah, je sais pas.
Voilà, que donc Brut crée des contenus pour Facebook à l'origine. Et dans ce partenariat, nous on reprend ces contenus pour les publier sur nos sites web et aussi sur France Info, donc sur la chaîne de télé France Info. Et on a constaté une chose, c'est que ces contenus qui sont en fait optimisés pour une lecture sur Facebook ne marchent pas aussi bien que ça sur un site web.
D'accord.
Tu ne consommes pas de contenu de la même façon sur un site web. Et de manière assez surprenante, en revanche, marche bien à la télé. Voilà. Donc l'idée, là, c'est de se dire, j'ai un contenu, j'ai une histoire à raconter. Une même histoire peut être racontée de différentes façons. Mais il faut avant tout prendre en compte le support sur lequel tu vas te trouver. D'accord ? Donc là, si on parle de Facebook, à un moment donné, comme tu le dis, je ne vais pas écouter le son. Donc le son n'a pas d'importance. Mm-hmm. Il s'avère que si je vais sur un site web, le son aura plus d'importance. Si je vais sur YouTube, la longueur sera plus importante. Donc nous, on revoit un peu chez nous sur des mêmes contenus, des mêmes types de contenus sur une émission, par exemple. On va découper sur Facebook et on va avoir une moyenne de visionnage qui va être 18 secondes. Tu vas sur YouTube, tu as une moyenne de visionnage qui est 2-3 minutes. Tu vas sur nos environnements, nos sites et nos applis, et là, tu as une moyenne de visionnage qui va plutôt dans la demi-heure.
D'accord.
Sur Facebook, les gens vont venir chercher l'extrait. Sur nos environnements, encore une fois, que ce soit France Info ou France.tv, une plateforme qui vient de sortir récemment, les gens viennent chercher un contenu long avec une adhérence plus forte à la marque. Voilà. Donc, le défi pour nous, c'est de trouver cet équilibre, sachant que la difficulté première, c'est qu'aujourd'hui, si je suis un média, je suis mesuré à ce qu'on appelle J+1. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire qu'en fait, je mesure mes audiences le lendemain du direct. Mmh. Donc, si j'ai une émission, elle sort un soir, je vais mesurer la part d'audience, ce qu'on appelle la PDA, le lendemain matin. Et c'est à ça que je mesure le succès de mon émission. Mmh. Sauf que tout ça, ça ne prend pas en compte ce qu'on appelle, nous, le J+8 ou
une sorte de longue traîne, finalement.
Le long traîne, tout ce qui est, finalement, vit très bien sur le numérique. Mmh. Mmh. Et voilà. Donc, ça, c'est le défi qu'on a, c'est de se dire comment je change le thermomètre pour mesurer tout ce qui se passe ailleurs que sur la télé. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai un thermomètre très, très orienté télé.
Et puis, il y a un autre défi aussi, je crois. Enfin, il y en a plusieurs, mais dans un premier temps, il y a un défi de business model, même si, en l'occurrence, France Télévisions, ça appartient au moins en partie à l'État. Je ne veux pas dire de bêtises.
La redevance audiovisuelle qui finance.
Donc, il y a une question de business model. Enfin, c'est-à-dire comment je génère des revenus si les gens ne regardent plus la télévision, ou en tout cas, je ne peux pas faire payer de médias, enfin de marques pour faire du média. Et le deuxième aussi, c'est la dépendance aux plateformes, que sont Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et consorts. Comment je m'assure d'avoir une forme d'indépendance ? Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant dans l'équilibre avec Facebook, c'est que Facebook sans contenu n'existe pas. Donc en fait, ils ont besoin de vous et en même temps, ils ont une position dominante par rapport aux médias, je trouve, parce que les médias ne sont pas bien structurés.
Alors, clairement, dans un média comme France Télévisions, cette question de savoir est-ce qu'on diffuse notre contenu uniquement sur nos environnements, donc nos sites web, nos applications, ou est-ce qu'on va aussi sur Facebook et YouTube et permettre à ces gens-là de finalement de se faire de l'audience grâce à nos contenus. La stratégie, là, c'est de se dire, je suis du service public, je crée du contenu. Mmh. Et donc, je me dois finalement d'aller sur les carrefours d'audience.
C'est quoi la mission, d'ailleurs, de France Télévisions ?
La mission de France Télévisions, c'est de divertir, d'informer le mieux possible le maximum de Français, finalement.
D'accord.
C'est en résumé.
Du coup, ça fait du sens. Ouais.
Donc, voilà. Donc, c'est de se dire, moi, si ma mission, c'est d'informer, de divertir, je vais là où les usages se trouvent. On regarde, on constate, on se dit, tiens, les usages sont sur Facebook en particulier, donc il faut aller sur Facebook. Après, qu'est-ce que ça veut dire d'aller sur Facebook ? Bon, ça veut dire d'écrire spécifiquement, ou, autre exemple, Instagram, mais c'est faire des contenus spécifiques, donc c'est investir particulièrement pour cette plateforme. Donc c'est des choix stratégiques importants. Donc à chaque fois, on se questionne en se disant, oui, mais si je vais là, est-ce que finalement, l'utilisateur final, donc l'auditeur, le téléspectateur, a conscience qu'il est en train de consommer des contenus France Télévisions ? Parce que pourquoi pas aller sur Facebook ? Mais ce dont je veux m'assurer, c'est que la personne qui va sur Facebook se dit « Cette émission que j'ai vue,
elle lie à
c'est
la marque.
Bien une émission de France 2 et non pas du contenu Facebook. » Donc j'ai ce sujet-là. Deuxième sujet, c'est de se dire « Je ne vais pas laisser Facebook aux autres. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, en particulier sur l'info, il y a énormément de fake news. Donc il y a une sorte de devoir public, de responsabilité sociale pour France Télévisions, de se dire « Je vais aller pousser de l'information vérifier, etc., pour contrer justement ces fake news. Donc du coup, on y va, et on y est allé de manière assez agressive chez France Télévisions, puisqu'aujourd'hui, on doit faire dans les 200 millions de vidéos vues par mois sur Facebook uniquement, donc ce qui est assez important, sur un total à peu près de 600 millions de vidéos vues par mois sur le numérique.
D'accord.
On en fait quand même énormément sur Facebook. Donc on le fait, mais tout en se disant, il n'y a pas que Facebook. Ce qui est important, c'est de se dire, il y a aussi nos environnements. Donc c'est même continuer à faire que, dans certains cas, on va là où les gens se trouvent, et dans d'autres cas, on fait venir les gens à nous sur nos environnements. Si je prends le sport, si je prends la couverture des Jeux Olympiques, par exemple, s'il y a bien un endroit où les gens vont vouloir venir consommer du contenu, c'est au moment des Jeux Olympiques. Mmh. Donc l'idée, là, c'est au contraire de garder ce contenu chez nous pour faire venir les gens. Donc pareil, en fonction du contenu, en revanche, si c'est une info que l'on doit pousser, ben là, on va la pousser sur Twitter ou sur Facebook. Voilà, donc il y a cet équilibre. Donc c'est vraiment un écosystème de plateformes. Mmh. Et en fonction du type de format, du type de contenu, de savoir équilibrer. Voilà. Et c'est cet équilibre qui, très honnêtement, est difficile à gérer aujourd'hui.
Bien sûr. Et comment enfin, je reviens à cette sorte de business model, mais même si effectivement, en tant que service public, vous n'avez pas forcément la problématique, mais il y a quand même cette idée de ben, quand je suis sur Facebook, je ne gagne pas d'argent, en fait. Enfin, c'est Facebook qui gagne de l'argent, finalement.
Oui, alors, effectivement, nous, en tant que service public, l'objectif numéro un, c'est davantage l'audience, donc s'assurer que j'atteins l'internaute final hein, sur le numérique. Mmh. Et après, c'est de se dire, maintenant, dans un deuxième temps, comment je monétise le mieux possible toute cette audience que j'ai créée. Mmh. Contrairement à un média privé qui, lui, aurait une priorité inversée. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que pour nous, d'aller sur Facebook, ça a toujours été plus simple et pour ça qu'on a une présence beaucoup plus forte que d'autres. Maintenant, on ne peut pas ne faire que ça et à un moment donné, il faut financer la création. Hein. Il faut qu'on ramène de l'argent et on a des discussions avec Facebook. Donc Facebook essaye de tester des formats où on puisse faire de la pub sur les vidéos. On est en discussion avec eux, mais il est vrai que voilà, on n'a pas encore trouvé la solution qui fait que,
parce que YouTube
que Facebook devient une plateforme viable en tant que monétisation.
Parce que YouTube, au moins, ils sont un peu plus transparents.
Et effectivement, donc nous avons notre régie publicitaire, mmh. et c'est elle qui travaille sur YouTube. Mmh, voilà. Mmh. En revanche, sur Facebook, on n'a pas encore trouvé un arrangement entre Facebook, nous en tant qu'éditeur, et notre régie publicitaire.
Mais parce que nativement, dans la solution de Facebook, il n'y a pas de revenu qui est prévu pour la personne qui crée le contenu, tout simplement. Alors que nativement, dans YouTube, il y a prévu partage de revenus.
Facebook, y travaille, parce qu'à un moment donné,
ils n'ont pas le choix. Hein.
Voilà. Alors après, il y a des choses qui arrivent, là, où Facebook se met à faire de plus en plus de vidéos, de contenu, de création de contenu. Mmh. Donc à un moment donné, Facebook va devoir choisir entre être juste un diffuseur, une plateforme, ou vraiment un éditeur de contenu dans la création. Et là, ça va changer la relation avec des gens comme nous.
Et alors j'élargis un petit peu le sujet, mais qu'est-ce que tu penses du rapprochement en tant qu'industrie des différents médias pour partager leurs data pour être plus fort versus les GAFA, enfin en tout cas versus Google ou Amazon, ou Facebook.
Alors effectivement, il y a des médias qui se mettent ensemble en se disant, voilà, je vais partager la data. Alors, il y a un objectif qui est...
Et là, il y a la SNCF qui a fait la même chose avec BlaBlaCar et compagnie.
Un objectif qui peut être un objectif publicitaire, d'accord, qui est que si j'ai une meilleure connaissance de mes utilisateurs, effectivement, je peux mieux les cibler au niveau publicitaire. Mmh. Bon, ça, c'est une problématique qui est importante, mais qui est moins forte, encore une fois, pour France Télévisions. En revanche, nous, on a effectivement ce besoin de connaître nos utilisateurs pour mieux les servir au niveau des contenus. D'accord. Donc ça, c'est, pour nous, c'est le souci numéro un. Et effectivement, quand on se retrouve sur un Facebook, eh ben, la donnée ne nous appartient pas. Mais il n'y a pas que sur Facebook. Parce que le sujet Facebook, c'est aussi un sujet avec les FAI. Donc quand je prends mon contenu et qu'il est distribué par Free ou par Numéricable, voilà, la consommation de mes contenus, savoir qui consomme mes contenus, je n'ai pas accès à cette data aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les FAI... moi, j'ai accès à la donnée sur le nombre de vidéos vues, par exemple, mais je ne sais pas qui consomme.
Mais parce qu'avec la télévision, on savait.
En fait, la télévision, on ne sait pas plus.
C'est ça, hein.
En revanche, sur mon site web ou mon application,
ça, bien sûr.
Sur la télé, on ne sait pas plus. Justement, mais cette donnée, elle existe. Mais aujourd'hui, qui la monétise? C'est le FAI ou c'est Facebook?
Ah oui,
c'est
pas nous. Bien sûr. Et ça
donc ce qui est important, c'est que ce problème avec les GAFA, c'est aussi un sujet
plus général.
Plus général. À qui appartient la donnée? Est-ce que c'est à celui qui a fait le contenu ou à celui qui la diffuse?
Est-ce que tu penses que ça doit être une problématique qu'une chaîne télévisée doit prendre à bras-le-corps, cette histoire de data? Parce que je sais que moi, je travaille moins avec les médias qu'avec des entreprises commerciale, on va dire. Enfin, quoi qu'une chaîne de télévision, ça peut être aussi commercial, mais. Et eux, c'est certain, quand on parle de transformation digitale, même si je déteste le terme, on parle beaucoup de récupération de data, en fait, récupération de données. C'est pour ça que les marques se mettent au D2C, etc. etc. Est-ce que pour une chaîne de télévision, c'est aussi la même problématique, c'est comment je récupère de la data, de la donnée, pour mieux servir, pour peut-être utiliser de l'intelligence artificielle, pour faire du clustering client, pour pouvoir servir les bons contenus aux bonnes personnes au bon moment, avec le bon format aussi. Parce que le format aujourd'hui, vous le faites en fonction de la plateforme, mais vous pourriez aussi le faire en fonction des personnes, du moment, etc. etc. Voilà.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la télé, c'est un média social à l'origine. C'est-à-dire que c'est un média qui se veut être une relation aussi entre...
D'accessibilité.
Avec le téléspectateur. Ouais. Donc la relation téléspectateur est quelque chose d'important. Ouais. Pas oublier qu'à un moment donné, le 20h, c'était la grand-messe où tout le monde se rassemblait autour de la table. Voilà. Donc la connaissance, la relation avec le téléspectateur est un sujet très important. Donc nous, on veut, dans le monde du digital, continuer à développer cette relation. Et pour la développer, il faut le connaître, le téléspectateur. Le numérique nous permet de le faire. Le sujet que l'on a, nous, en tant que média public, c'est que là, par exemple, sur France.tv, on a mis l'inscription obligatoire au moment du lancement de la plateforme. Et on nous a reproché, comment ça, un média public nous demande de nous enregistrer pour accéder à du contenu que finalement j'ai financé avec ma redevance audiovisuelle et à laquelle je devrais pouvoir avoir accès.
Bien sûr.
Et il s'avère en plus que France Télévisions a une population... d'auditeurs, téléspectateurs plus âgés, qui sont donc plus sensibles aux besoins d'inscription. Si je prends quelqu'un de 25 ans, il n'a pas de problème à s'inscrire en ligne. Quelqu'un de 50 ans est déjà un peu plus réticent.
Bien sûr.
Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire comment je rassemble cette information pour mieux servir. Et le truc, par exemple, le plus évident, c'est la recommandation. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une plateforme. Un des gros succès de Netflix, par exemple, c'est la recommandation et la possibilité de vous recommander, une fois que vous avez fini un épisode, d'enchaîner sur autre chose. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on cherche à avoir accès à la donnée pour pouvoir justement offrir ce genre de service, par exemple. Ou la reprise de lecture, par exemple, je commence à consommer une vidéo sur mon mobile, je vais sur ma télé, je vois la suite.
Moi, j'ai du mal à comprendre que ce soit pas encore le cas, mais effectivement.
Mais c'est un problème d'identification.
Ouais,
comment je sais que toi, Greg sur le mobile, c'est toi Greg sur la télé. Et que moi, comment moi, France Télévisions, je le sais. Mais c'est loin d'être évident.
Et pour revenir à cette histoire de Netflix, est-ce que tu penses que... Parce que Netflix, ils sont d'abord un tuyau qui ensuite a décidé de développer des contenus. Est-ce que tu penses qu'une chaîne de télé pourrait faire le chemin inverse, c'est-à-dire d'être celui qui crée les contenus pour finalement devenir un tuyau?
Alors...
Ça fait pas de sens?
Ça dépend ce qu'on appelle tuyau... Mais non, nous, on se repose sur des tuyaux existants.
Non, bien sûr.
Voilà.
Mais comme Netflix, à la base, se reposait sur des gens qui créaient du contenu.
Ouais. Je pense que faire le chemin inverse pour nous, alors, n'aurait pas de sens. Alors, après, ça dépend ce qu'on appelle.
Juste sur la data, en fait.
Oui, c'est-à-dire créer notre propre média physique, par exemple. Bon, aujourd'hui, pas sûr que ça ait du sens. Donc, il y en a suffisamment. Alors,
ouais,
après,
beaucoup,
quand on fait notre propre site web, quelque part, on le voit comme notre environnement, donc notre tuyau.
Bien sûr.
D'accord. Il faut voir qu'il y a vraiment une grosse distinction entre ce qu'on appelle site web et application. Là, on a la maîtrise et tout ce qui est la plateforme, l'intermédiation. Voilà. On va sur les plateformes qui existent. Donc l'idée, c'est pourquoi on va là-dessus. On va là-dessus parce qu'elles ont un succès. Ce sont des carrefours d'audience existants. Il y a une audience, donc on va atteindre cette audience grâce à ces diffuseurs.
Mais non, mais je te posais cette question parce que typiquement, le groupe Accor, ils ont fait confiance aussi aux canaux pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, eux, c'est d'abord des hôtels et ils sont passés par les TripAdvisor, par les Last Minute, par les etc. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'en fait, ils étaient dépendants d'eux, donc ça leur bouffait leur marge pour finalement décider, après 10 ans, de lancer leur propre hub où ils accueillent les hôtels concurrents. Il n'y a pas que les hôtels Accor à l'intérieur. Donc, ils accueillent les hôtels concurrents à l'intérieur de leur propre hub et ils vendent des nuits d'hôtel comme le fait TripAdvisor ou autre. C'est pour ça. Et en fait, on pourrait imaginer que France Télévisions devienne un tuyau, pas uniquement pour les contenus de France Télévisions, mais pour, comme Netflix diffuse tout, quoi.
Oui. Bon, pour l'instant, c'est pas...
Non, j'imagine que c'est pas le cas, mais est-ce que ça fait du sens?
Pas dans les plans. Aujourd'hui, on se pose, ces questions se posent. Par exemple, quand on se dit qu'on investit pour faire notre propre plateforme, la France.tv, ouais. Qui va rassembler toutes les plateformes, tous les contenus, numériques, vidéo de France Télévisions, que ce soit court, long, c'est gratuit, énorme, payant. Ouais. Déjà, en quelque sorte, on crée notre propre tuyau. Mm-hmm. C'est notre plateforme. Mm-hmm. Et là, le challenge, c'est se dire comment je fais venir les gens chez nous.
Bien sûr.
Alors que je vais être en concurrence avec un TF1, avec.
Bien sûr.
Avec un Netflix, avec d'autres offres. Voilà.
Bien sûr.
Le sujet aussi intéressant, c'est que cet été, c'est Disney qui a annoncé
qu'elle
créerait justement son propre tuyau, en quelque sorte, sa propre plateforme, pour aller contre Netflix. Alors, je ne sais pas si ça va dans l'intérêt des consommateurs, toute cette histoire, mais effectivement, donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est cet équilibre entre nos environnements sur lesquels on investit beaucoup d'argent, que ce soit le site France Info qu'on a fait ou la plateforme, la France.tv, et aller sur des tuyaux existants.
Voilà. Ouais, ce qui est différent aussi pour une chaîne de télévision publique, j'imagine. Enfin,
et qu'il faudra continuer, dans notre mission de service public, d'aller là où les gens se trouvent,
bien sûr.
Sur ces fameux carrefours d'audience, et les gens se trouvent sur Facebook, sur Free. Aujourd'hui, voilà. On va, et demain, ce sera ailleurs, et demain, on déploiera ailleurs.
Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. Donc, à qui ou à quoi tu as envie de claquer la porte aujourd'hui ?
En fait, ce à quoi j'ai envie un peu de claquer la porte, c'est cette fameuse notion de transformation digitale.
Ouais.
Finalement, ce n'est pas tant une transformation digitale, c'est-à-dire que le numérique n'est juste qu'une excuse, c'est plutôt... que les gens prennent conscience qu'on est passé d'un monde où le changement était une exception à un monde où le changement fait partie de la vie courante. Mais quand tu as 50 ans aujourd'hui, tu as été éduqué, tu as eu une vie professionnelle ces 30 dernières années à ne pas vraiment changer, à te dire quand j'aurai 50 ans, mon acquis fera que ce que j'ai acquis pendant ces 30 dernières années finalement justifiera mon autorité, ma compétence, mon poste.
Salaire,
voilà, voilà. Et d'un seul coup, je vis dans un monde où non, ce que j'ai appris ces 30 dernières années finalement... est devenu obsolète. Et finalement, il faudra que je me repose sur d'autres choses et peut-être que je me remette en question et que j'apprenne d'autres choses. Enfin, c'est compliqué. Pour quelqu'un de 50 ans, il faut bien comprendre. Alors, je vois que les jeunes ont du mal à le comprendre. Il faut bien comprendre que arriver à 50 ans, remettre en question tout ce qu'on a acquis ces 30 dernières années, c'est loin d'être trivial. Donc, que font ces gens ? Ils s'accrochent à leur connaissance et pour la faire perdurer le plus longtemps possible. C'est humain.
C'est humain. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.